vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeyron.
Bonjour Alexandre.
Bonjour à tous.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous voulons apporter de l'espérance et aborder les chemins du possible vers l'écologie intégrale. Mais Alexandre, est-ce que vous croyez que c'est encore possible ?
Eh bien, écoutez Didier, c'est ce que nous allons voir. Et vous commencez par poser une question. Moi aussi, je vais poser une question. Peut-on penser l'avenir à l'aune du présent ? Alors, si on fait un constat, je pense que nous sommes dans un temps de crise. Hein, parce que c'est le temps des crises, justement. Il y a la crise écologique, la crise économique, la crise migratoire, la crise sociale et aussi une crise morale. Et très souvent, ces crises sont liées les unes avec les autres. Alors, je vais vous prendre un petit exemple. On va partir dans l'océan Pacifique, dans l'archipel des Tuvalu. C'est un archipel, un chapelet d'îles, qui représente à peu près 26 km² de terre, qui compte autour de 10 000 habitants. Et c'est le premier pays qui, d'ici 50 ans, sera inhabitable en raison de la montée des eaux. Donc, les habitants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être obligés de quitter ce lieu. Donc, on voit bien que la crise climatique va engendrer une crise sociale, la disparition de villes, et que cette crise sociale engendrera aussi une crise migratoire, puisque les gens seront obligés de quitter leur lieu de vie.
Eh bien, ce n'est pas réjouissant. Et maintenant, Alexandre, si on faisait un peu de prospective ?
Alors, on va faire un petit peu de prospective, et ce que je vous propose, c'est de nous intéresser, en gros, à trois scénarios. Alors, l'avenir catastrophique. On va commencer peut-être par
le pire.
Le pire, oui. Alors, c'est celui qu'on voit souvent et qui est souvent représenté, d'ailleurs, dans les films de grande distribution, hein, ou dans les romans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a un certain nombre de données solides qui montrent que on est en train d'atteindre un certain nombre de limites en ressources naturelles, par exemple, que la température est en train d'augmenter. Mais si on veut faire un reproche à ce scénario catastrophique, c'est qu'il néglige un petit peu l'ingéniosité et les facultés d'adaptation des sociétés humaines. Voilà. Autre façon de voir l'avenir, c'est de voir l'avenir comme un prolongement du passé récent, c'est-à-dire du présent en l'occurrence. Donc là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une surestimation des continuités et par contre une forte sous-estimation des ruptures. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on envisage l'avenir comme un ajustement.
Du rafistolage.
Oui, sans changement profond. Voilà. Et le troisième scénario, c'est un troisième scénario, mais il y a un pluriel, hein, ce sont les avenirs imaginaires. Donc là, on peut tout imaginer. Peut-être un petit bémol par rapport à ces avenirs imaginaires, c'est la sous-estimation des délais. Je ne sais pas trop si ça, c'est dans un avenir proche ou dans un avenir très, très lointain. Mais vous me regardez bizarrement,
oui,
Didier.
Oui, hors antenne, vous avez évoqué deux visions. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Sont intéressants.
Oui, oui, c'est vrai, on discutait. Il me semble que par rapport à ces différents scénarii qu'on vient d'exposer, je dirais qu'il y a deux éléments qui me semblent ressortir. Soit, en gros, on va beaucoup miser sur le triomphe de la technique, hein, et en se disant, en gros, la technique va nous permettre d'éviter la catastrophe. Et il y a aussi une autre chose qui serait peut-être plus dans les avenirs imaginaires, c'est de se dire qu'on peut faire un retour à ce qui fonde vraiment une société. Et je pense que l'un des éléments importants dans la crise que nous sommes en train de connaître, c'est d'accepter les limites. On est toujours dans un logiciel qui utilise toujours le terme de croissance. Je prends cet exemple pas au hasard parce qu'on vous dit « Ah non, il y a la bonne croissance et la mauvaise croissance ». La bonne croissance étant la croissance verte. Mais la croissance verte, elle reste croissance.
Oui.
Voilà. Donc, accepter les limites. J'allais dire cultiver la mesure en tout. Est-ce qu'on a besoin, là aussi, alors les auditeurs seront peut-être lassés par cet appel. Est-ce qu'on doit changer notre portable toutes les années? Voilà. Et revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'avoir ou est-ce que c'est l'être? Là, je pense que on est en droit de se poser la question. Et dans ces scénarios qui sont proposés, c'est ça qui est en jeu. La technique, avec quelque part un toujours plus, ou un retour à ce qui fonde. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut retourner à l'époque préhistorique. Hein.
Mais est-ce que la solution peut venir du haut ou du bas?
Alors, c'est vrai qu'il y a deux approches, on dit. Hein. L'approche bottom-up, c'est-à-dire du local au global, qui a l'avantage que les personnes, l'ensemble des individus sont des acteurs, ou l'approche top-down, qui la gestion vient par le haut, elle est beaucoup plus globale, elle va du global au local, et les individus sont juste des participants, en fin de compte. Alors, moi, si je devais conclure sur ce que je viens de dire, je dirais juste deux choses. Soyons acteurs du renouveau de notre société, à tous les niveaux. Et je citerai simplement Gaston Berger, qui est le père de la prospective en France. L'avenir est moins à découvrir qu'à inventer. Donc, allons-y, inventons.
Alors, en parlant de top-down, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas mieux que Dieu qui descend à la rencontre d'Abraham.
Ah, donc je suppose que vous voulez nous lire un petit texte.
Tout à fait. Dans la Genèse, au chapitre 12 et au verset 1 à...
À 5.
1 à 5, exactement, Alexandre. Yahvé dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Abraham partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent.
Oui, moi ce que je retiens de ce texte, c'est cette mise en route. Justement, je pense que par rapport à la crise dans laquelle nous vivons, il ne faut pas rester en l'état. Il faut avancer, il faut aller au-delà. Et je crois que vous voulez nous présenter quelques aspects pratiques.
Tout à fait. Et donc, sur le plan pratique, je vous propose d'entrer dans le livre que j'ai écrit avec un ami, Guillaume Desgeorges, « Comment réussir sa transition vers l'écologie », où nous avons voulu présenter les chemins de transition écologique.
Et cette présentation, vous souhaitez la faire à travers deux témoignages.
Tout à fait. Le premier témoignage est celui de Christelle Godard, le moment où nous avons changé de vie à la maison.
Ah, très bien. Comment ont-ils changé de vie alors?
Eh bien, tout simplement, en 2009, toute notre famille, je lis le témoignage, toute notre famille est partie en voyage pendant un an sur un bateau. Ce voyage a bouleversé nos habitudes. Le décalage que nous avons éprouvé à notre retour et une conférence organisée pour la sortie du livre « Notre poison quotidien » de Marie-Monique Robin ont été pour moi un déclencheur. Nous avons beaucoup réfléchi avant de partir, surtout sur la partie alimentation. Au début, imaginez de faire les courses pour une année entière, de réfléchir à tout ce qui sera strictement nécessaire, tout ce que vous pourrez manger, dans les recettes, comment remplacer le beurre, la crème fraîche. En général, les plats de ceux qui cuisinent bio sont très intéressants au niveau des mélanges, de sa saveur et des condiments. Pour le reste aussi, nous avions beaucoup réfléchi à ce que nous devions emporter pour le voyage et finalement nous aurions pu partir sans rien ou presque. Deux pantalons et deux t-shirts auraient été suffisants. On lave, ça sèche vite. Premier témoignage.
Oui, premier témoignage qui insiste un petit peu sur un certain dépouillement. Le second témoignage, c'est...
Alors, c'est un témoignage d'espérance de Lino. Lino nous dit « Je suis jardinier depuis que je tiens debout. Je suis fils de paysan et j'étais écolo alors même que j'ignorais le mot. Je me rendais compte, très jeune, qu'on s'éloignait du naturel et que l'agriculture pouvait se dévoyer. Dans les années 50 et 60, on utilisait des produits très dangereux, même si on ne le savait pas trop. Une fois, un chien est venu lécher une gamelle dans laquelle mon père préparait un produit, et un quart d'heure après, il était mort. » Alors j'arrête là la lecture, mais Lino, il a fait un choix assez impressionnant, parce qu'il a vu un chien mourir empoisonné par les produits chimiques, il a fait le choix de la vie en se faisant la promotion des semences Cocopelli. Donc le choix des graines de vie, d'un choix plein d'espérance.
Alors, tout le monde ne va pas partir un an sur un bateau. Peut-être quelques conseils, j'allais dire, que tout le monde peut utiliser.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les conseils, mais dans notre livre, il y a des informations pour agir sur nos choix alimentaires et pour cuisiner. Comment faire dans son jardin potager ou dans son jardin d'agrément pour accueillir la biodiversité. Dans la construction de la maison, pour réduire ses consommations électriques, faire d'autres choix. On peut aussi agir dans l'éducation de nos enfants et en écoutant ce qu'ils nous disent quand ils reviennent de l'école. Donc plein de conseils à trouver dans notre ouvrage.
Voilà, il existe plein de solutions à mettre en œuvre. Petite ou grande solution, c'est ce que nous vous invitons à faire, chers auditeurs. À bientôt, au revoir Didier.
Tout un tas de chemins des possibles. Oui, au revoir.
Au revoir.